السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين الطاهرين أما بعد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أثنى الله سبحانه على عباد المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهدون بهم أو يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans un autre passage de son livre, nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs croyants. Puis il a mentionné qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de faire d'eux des guides, des imams, qui seront eux-mêmes pris pour exemple et seront à leur tour des exemples. Ou plutôt, il demande à Allah Azza wa Jal de faire d'eux des guides qui seront pris pour exemple. Et il nous dit dans leurs caractéristiques, ceux qui disent « Ô notre Seigneur, accorde-nous dans nos épouses et notre descendance la fraîcheur du regard, yani la chose la plus aimée, la plus épanouissante, et fais de nous, pour les pieux, des imams. Fais en sorte qu'on soit, nous, des guides, des exemples, des pieux, des guides, des exemples, des imams pour les pieux. » Ce passage est à la fin de Sourate Al-Furqan, dans le célèbre passage de la description de Ibadu Ar-Rahman, les serviteurs du Tout Miséricordieux. Et comme, Masha'Allah, Tabarakallah, Allahumma barik, on a beaucoup de tullab ilm, na'am, qui sont dans al-mustawayat, al-ulya, inshallah, on va trouver qui va nous réciter ce passage du Coran, inshallah ta'ala. On attend qu'il se porte volontaire, et dans le cas contraire, inshallah, on l'aidera. Vous avez 10 secondes. Plus on a des professeurs de Coran, Allahumma barik, des hafiz Coran. Ma yusmi'una, qui nous fait écouter le Coran. Ne vous disputez pas, vous pourrez réciter les uns après les autres. On désigne, si on était aussi calme et sérieux pendant les cours, hein, on serait mieux, Masha'Allah. On laisse à la fin, Inch'Allah. Tamam. Ishaq, on laisse à la fin. Tu préfères rester à la fin? Tamam. On laisse jamais sa place dans l'ibadat. Tamam. À la fin, Inch'Allah, on aura le plaisir d'écouter nos frères. Ça, c'est la dua des gens pieux. Il demande à Allah Azza wa Jal de devenir des imams et des exemples pour les gens pieux qui viendront après eux ou bien leurs contemporains. Puis il mentionne les tafasir. Naam, Abdullah ibn Abbas a dit « Yuhtada bina fil khayr » « On nous prend pour exemple dans le bien. » Naam. Abu Salih a dit « Yuhtada bihudana » On prend, yani, ils sont guidés. Ils prennent pour exemple notre guidé à nous. Et il a cité différents avis. Jusqu'à dire que Mujahid, qui est Mujahid? Qui répond à cette question? Naam? Mujahid ibn Man. Là, ibn Mas'ud, c'est Abdullah. Par exemple, Mujahid ibn Man. Personne n'a lu dans le tafsir sans passer par son nom. N'est-ce pas? Mujahid ibn Jabr. C'est l'élève, le célèbre élève de qui? Hein? Abdullah ibn Abbas. Il a lu à trois, il dit que j'ai lu le Coran à trois reprises sur Abdullah ibn Abbas. Uqifuhu 'inda kulli aya as'aluhu 'anil ma'na. Vous imaginez? Il dit, j'ai lu trois fois le Coran entièrement sur Abdullah ibn Abbas. À chaque verset, je l'arrêtais, je lui demandais sur le sens. Hein? À chaque verset, je l'arrêtais, je lui demandais sur le sens. Donc, c'est une montagne de connaissances. Il dit dans le tafsir de ce verset, ij'al lana mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Tafsir de Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala. Pour le verset, écoutez bien. Et fais de nous, pour les pieux des imams, Mujahid explique et dit, fais en sorte que nous, on prenne pour exemple les gens pieux. Fais en sorte, oh Allah, fais de nous des gens qui prenons pour exemple les gens pieux. Ibn Qayyim dit, ce tafsir-là a posé problème. À qui? على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. Ce tafsir a posé problème à ceux qui ne connaissaient pas la valeur de la connaissance des pieux prédécesseurs et la profondeur de leur connaissance. Parce qu'ils se sont dit, mais là, il a inversé. C'est pas ça le sens du verset. Le sens du verset, c'est que eux veulent devenir des imams pour les gens pieux qui viendront après eux. Et Mujahid dit, que le sens c'est, oh Allah, fais en sorte que nous on suive les gens pieux. Donc en apparence, il y a une inversion. Na'am. Mais comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, des fois le savant, il parle. Et celui qui ne comprend pas, il pense que le problème vient de la parole qui est en face. Alors que le problème vient de nous, du manque de concentration. Et ça, c'est une grande leçon pour nous les petits étudiants en sciences. C'est que des fois il se passe des choses, des fois il y a des troubles, et les ulama parlent. Et l'un d'entre nous se permet de dire, mais pourquoi le shir, il a dit ça? Ou bien le professeur parle, pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il n'a pas dit ça? Et pourquoi quand il se tait, pourquoi il n'a pas parlé? Il fallait parler. Subhanallah. Si tu parles, il dit pourquoi t'as parlé. Si tu parles pas, il dit pourquoi tu parles pas. Si tu dis ça, il dit pourquoi t'as pas dit plutôt ça. Mais est-ce que les gens, ils parlent à la recherche de ton agrément à toi? Ils doivent parler ou se taire selon le din. Selon ce qu'Allah Azzawajal veut d'eux. Et ils savent, et vous ne savez pas. C'est pas à vous de remettre en question les paroles des ulama. Quand les ulama disent de se taire, il faut se taire. Que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris. Et quand ils parlent, c'est que la sagesse, c'est de parler. Quand ils parlent, c'est que la sagesse, c'est de parler. L'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, disait, innahum, على علم وقف وببصر نافذ كفو. Quand les ulama ils parlent, c'est avec science. Et aussi quand ils s'abstiennent, c'est avec clairvoyance. Et eux étaient sur la bonne voie. Donc, les savants, tu ne dois pas avoir une mauvaise opinion d'eux. Quand ça ne t'est pas clair, toi, remets-toi en question et demande l'explication. Quant à avoir le mauvais comportement, d'avoir la mauvaise opinion des ulama, premièrement, et deuxièmement, de les critiquer ou de les blâmer parce que tu n'as pas atteint de ta connaissance qu'il a atteint lui, ça c'est un mauvais comportement. Et en général, ce talib ilm n'y réussit pas. Vous le verrez, il a un signe qui ne trompe pas. C'est qu'il change de shir régulièrement. C'est-à-dire, il est parti à un cours, il change, il va dans une autre assise. Puis il trouve des défauts, il change, il va dans une autre assise. Puis il trouve des défauts et il ne s'arrêtera jamais, prendra jamais la science. Parce qu'il pense que le savant a comme condition d'être infaillible. Il pense que l'enseignant a pour propriété de ne pas pouvoir faire de faute et d'être la photocopie de son idéal dans sa tête. Ça, c'est une erreur. Toi, tu dois aller où il y a les gens de science qui ont du khair à te donner. Tu puises sa science, puis tu vas chez un autre. Quand tu as puisé la science de l'autre, tu vas chez un autre, et ainsi de suite. Quant au fait de juger toi les paroles des ulama, ça c'est un mauvais chemin. Naam, nous, on doit être au pied de nos savants. Et quand je dis au pied de nos savants, c'est une expression chez les ulama pour dire que tu viens pas soit en tailleur devant les chouyours. Et comme ils sont assis, ben, t'es au niveau de leurs pieds. Comme quand le khatib, il fait la khutbah, t'es à ses pieds. C'est pas une humiliation, c'est une noblesse chez les ulama. Chez nous, c'est une noblesse. Hein? Chez l'orgueilleux, c'est pas une noblesse. Comment ça, moi, je me mets au pied? Oui, naam. On s'assoit. Naam, on s'assoit. Barakallahu fikoum. Français, mais s'asseyer avec sahaba. À un point tel que les gens venaient de l'extérieur, ils le reconnaissaient pas. Alors, on lui a mis un lieu où il allait s'asseoir pour qu'il soit reconnu. Et on lui a fait un minbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-muslim yatawadha lil-haq. Le musulman, il est humble devant la vérité. Ça, c'est muhim jiddan. Parce qu'on a trouvé des gens qui étaient ignorants, éduqués. Puis, quand ils ont pris de la science, subhanallah, ils ont un mauvais comportement. Cette science-là n'est pas prise pour Allah. La science, elle a des effets sur le serviteur. Quand tu prends la science pour Allah, le comportement, il change. Si tu étais non-arabophone, éduqué, tu es devenu arabophone et tu manques de respect à tes professeurs, tu manques de respect à ceux qui t'ont précédé, tu manques de respect à tes parents, tu manques de respect à ceux qui ont fait la prière avant toi, sache que ta science, elle n'est pas bénéfique. Recommence. Recommence. Si tu es venu, tu as appris l'arabe, tu as appris du Coran, et ensuite tu manques de respect à tes parents, retourne au Muqaddima ou la Tamhidi. Muqaddima. Naam, ça va rentrer après, encore un mois, Inch'Allah, ça rentre. Naam, retourne à Muqaddima, recommence. Un des salafs, sa mère lui a demandé un service. Il a dit, je suis occupé. Quand son chir, il a eu connaissance de ça, il lui a dit, recommence le pèlerinage de l'islam. Allahu Akbar. T'as étudié tout ça, t'arrives à ce niveau-là, et ensuite, quand ta mère, elle t'a demandé, t'as dit, plus tard, à ta mère, elle a dit, refais le hajj de l'islam. Recommence le hajj, t'as rien fait. Recommence à zéro. Recommence les piliers de l'islam. Et ça, il faut le comprendre. Naam. Et ça, c'est un contexte parfait pour faire la remarque sur ça. Tout ce que vous voyez, qui, quand ils étaient ignorants, ils respectaient, et quand ils ont pris un peu de science, eux, ils pensent que c'est beaucoup, mais c'est un peu. C'est un peu. Naam. Si t'as appris l'arabe, t'as fini le Coran, ben tu peux commencer maintenant. Lui, il a appris l'arabe, il a appris le Coran, il croit qu'il a fini. Là, tu peux juste commencer. Hein? Si t'avais été un nageur, ça veut dire t'enlever les bouées. Hein? Tu peux rentrer dans le grand bain. Tu commences. Ces ulama, là, à qui tu manques de respect, ils ont ton âge dans la science. Que dis-je? Ils ont ton âge dans l'enseignement. Ton âge que t'as, 25 ans, 30 ans, ça c'est que le temps qu'ils ont passé à enseigner l'ilm. Puis avant que tu sois une goutte, ville, eh ben il était en train d'étudier la science de savant en savant. J'ai pas dit pendant que t'étais une goutte, avant. Ça veut dire que t'étais rien. T'étais rien. Puis quand t'as été une goutte, puis un caillot de sang, puis un fœtus, puis un humain, hein, il était dans l'ilm. Quand t'es né en pleurant, il était dans l'ilm. Quand je savais pas encore marcher, il était dans l'ilm. Hein? Et maintenant que tu sais marcher sans qu'on te tienne par la main, tu vas parler sur eux? Bah, t'astahi? T'as pas honte? Oui, mais le shirkada, oui, mais le shirkada, oui, mais. D'accord, la parole que tu dis là, c'est les ulama qui t'ont dit de dire ça? Si oui, dicte-la nous afin qu'on fasse pareil. Parce que les ulama vont t'orienter dans le bien. Maintenant, si tu me dis non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal à toi-même? Hein? Et pitié pour ton front, pas pour la montagne sur laquelle tu tapes. Hein? Hakadha barakallahu fikoum. Ceux qui nous ont précédés dans l'ilm, ceux qui nous ont précédés dans la piété, ceux qui nous ont précédés dans l'enseignement, il faut les respecter. Ensuite, quand il y a une divergence, t'es pas apte, toi, à juger la divergence. Parce que t'es un petit étudiant en sciences. Naam. Tu dois revenir au ulama. Si possible, au ulama du domaine. Qui vont t'orienter selon ta situation. Ils vont regarder t'es qui, t'es quoi, t'as fait quoi, tu comprends quoi, tu connais quoi. Ensuite, il va t'orienter selon ta situation. Tu le remercies et tu appliques ses conseils. Ah, quant au fait que l'ignorant, c'est lui qui va venir voir ceux qui l'ont précédé, et c'est lui qui va mettre la pression ainsi de suite, et t'es même pas sur le banc de touche. T'es spectateur sur le côté. Et c'est toi qui veux dicter les règles. Non. Chacun reste à sa place. T'es dans le temps où t'apprends. T'es dans le temps où tu te construis. T'es dans le temps où t'as besoin de conseils pour pas perdre 10 ans de ta vie. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Et après, tu recommences. Non. Là, t'es dans ce moment-là. Corrige-toi tout de suite. Ta langue, utilise-la dans le khair, sinon tais-toi. قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. Qu'a dit le prophète عليه الصلاة والسلام? من صام تنجا. Ça c'est un hadith, on doit tous l'apprendre et l'apprendre à nos familles. من صام تنجا. Quiconque observe le silence obtiendra quoi? Le salut. Ça tu dois l'apprendre à tes enfants, femmes, enfants, pas tout le monde doit l'apprendre ce hadith. Celui qui observe le silence obtiendra le salut. Ça, c'est le tafsir de Mujahid. Ibn al-Qayyim nous dit, celui qui connaît pas la science des anciens, celui qui connaît pas la profondeur de leur savoir, na'am, il va dire, mais c'est quoi ça? Taï. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit, wa hadha min tamami fahmi Mujahid. Et ceci fait partie de la perfection de la compréhension du Coran de Mujahid. Puis il explique. Écoutez bien. فَإِنَّهُ لَا يَكُنُ الرَّجُلُ إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ حَتَّى يَأْتَمَّ بِالْمُتَّقِينَ Allahu Akbar. L'homme ne deviendra jamais un imam pour les gens pieux tant que lui-même n'aura pas pris pour exemple les imams pieux avant lui. Vous avez compris? Personne ne devient imam en se construisant seul. C'est ça le message. Le message, il faut que toi, tu sois un suiveur des imams déjà, pour un jour peut-être devenir un imam pour ceux qui viennent après toi. Donc, cette chaîne-là, il faut la respecter. Les anciens, tu les prends pour exemple. Ça n'est que comme cela que les successeurs te prendront toi pour exemple. Est-ce que c'est compris ce sens-là? Il est très subtil, très important. L'homme ne sera jamais un imam pour les gens pieux, tant que lui-même ne prendra pas, pour exemple, les gens pieux l'ayant précédé. C'est comme ça qu'on peut atteindre ce but-là. Allah Azza wa Jal a fait des pieux prédécesseurs, des imams, pour ceux qui sont venus après eux. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْفَهْمِ فِي الْقُرْآنِ وَأَلْطَفِهِ Il nous dit, et cela fait partie de la meilleure compréhension du Coran et de la plus subtile. فَمَنِ تَمَّ بِأَهْلِ السُّنَّةِ قَبْلَهِ اِتَمَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَنْ مَعَهُ C'est ça là, el khulasa, le résumé. Celui qui prend pour exemple les gens de la sunna avant lui, et ben ceux qui viendront après lui et ses contemporains le prendront à son tour lui comme exemple. Ainsi, tous ceux qui veulent faire cavalier seul et sortir de la jama'a et sortir des assises et se faire tout seul un chemin et tout seul une méthodologie seront jamais des imams. L'imam est forcément quelqu'un du groupe qui a pris exemple sur les imams d'avant. Quant à celui qui vient et ramène une nouvelle voie, une nouvelle méthodologie et fait scission avec le groupe, lui, ce sera jamais un imam. En général, vous savez, il devient quoi? Il devient un innovateur. Comment sont nés Al-Mu'tazila? Il y avait l'assise de Hassan al-Basri, il enseignait la science. Eh ben, il y en a un, I'tazalahum. Il y en a un qui a fait scission d'avec eux, et il est parti faire son groupe. Et ainsi de suite. À toute époque, les gens de l'innovation sont des gens qui sont sortis du groupe, et qui ont amené des nouvelles idées, des nouvelles visions, hein, et se sont qualifiés de réformistes, alors qu'ils sont innovateurs. Alors qu'ils sont innovateurs. Le verset est au pluriel, n'est-ce pas? Mais à la fin, le mot imam, est-ce qu'il est au pluriel ou au singulier, imam? Il est au singulier. Pourquoi on n'a pas dit, wa ja'alna lil muttaqin a'immatan? Pourquoi on n'a pas dit, Le mot imam au pluriel fait de nous. Vu que tout est au pluriel, on dit pourquoi dire fait de nous. Pour les pieux, un imam. En dehors du Coran, on aurait dit quoi? Fait de nous, pour les pieux, des imams. Vous avez compris la problématique? Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, pose cette question. Hein? Et il évoque les avis des gens, des linguistes, des savants, et ainsi de suite. Au final, il amène la parole de Al-Farra. Il apporte la parole de Al-Farra. Qui est Al-Farra? Tous, vous êtes inscrits en cours de quoi? D'arabe? Tamam. Et peut-être d'autres vont dire le Coran. Donc, personne n'a une excuse. Personne n'a une excuse. Naam. Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad. Hein? Fait partie de l'ulama de l'Koufa. Et c'était un savant dans la langue arabe et dans le Qiraat. C'était un savant dans la langue arabe et dans Mada dans le Coran. Taïb. Al-Farra a dit innama qala. Taïb, qui a une réponse d'abord? Qui pense avoir une réponse? Pourquoi on a dit le mot imam au singulier? Parce qu'il n'y a qu'une voix. Jamil.
L'imam c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que l'imam c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que au pluriel, on peut vouloir par cela le singulier. Naam. Qui a d'autres? Peut-être même s'ils sont plusieurs, vu qu'au final, ils suivent la même voie, on a mis au singulier. Naam. Je suis étonné de la splendeur des réponses, Hassan. Je me réjouis de l'écoute de ces réponses-là. Naam, Jamil. On va écouter la parole de Al-Farra. Naam, ensuite on va voir, on choisit la vôtre ou bien celle-là. Tamam. Naam. Parce que des fois, il y a des frères qui s'inventent des divergences. Ils disent le Shir, il a dit ça, mais moi je vois ça. Il y a un nouveau Qaoul. Hein? Ou bien Shir Antel a dit ça, mais moi je vois ça. Ah, tu vois maintenant. Mashallah. Mashallah, mashallah. طيب قال الفراء رحمه الله إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إن رسل رب العالمين ولم يقل رسولا وهو من الواحد المراد به الجمع. Écoutez la réponse. الفراء رحمه الله a dit إماما et n'a pas dit أئمة. Comme dans le verset dans Surat al-Shu'ara, en parlant de qui? Inna rasulu rabbil alamin. Nous sommes le messager du Seigneur des mondes. Qui a été envoyé à Pharaon? Moussa et Haroun. Et là, inna rasulu. Ça, c'est du mufrad ou c'est du musanna? C'est du singulier ou bien du duel? C'est du singulier. Alors qu'on parle de qui ici? De Moussa et de Haroun. Al-Farra a dit, c'est comme ici. Et il n'a pas dit Rasoula, parce que comme vous le savez, depuis que vous avez fait le Mustawa Tamhidi 1, que au duel, on rajoute un alif, n'est-ce pas? Et là, on n'a pas mis de alif. Il n'y a pas la alama du Rafa, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que des fois en arabe, on cite le pluriel, et on entend par cela le singulier. Ou on cite le singulier, en voulant par cela le pluriel, comme c'est le cas dans ce verset, ou bien le duel, on peut dire. Il a cité ensuite un vers de poésie chez les Arabes qui prouve cela. Ibn Qayyim dit, cela fait partie de la meilleure parole. Cependant, il manque des choses à ajouter. Écoutez la suite. Wallahi, c'est un trésor. Peut-être on arrête le cours après ça. Hein? On arrête le cours après ça. وهو أن المتقين كلهم على طريقة أو على طريق واحد وأن ومعبودهم واحد وأتباع عفوا وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبود واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتاب واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليس كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. Ça, c'est un trésor et un puits de science. Ça, c'est un trésor et un puits de science. Ça met fin au fanatisme. Ça met fin à la division. Ça met fin au suivi aveugle, même des savants. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que Allah azza wa jalla a dit au singulier le mot imam parce que les pieux, tous autant qu'ils sont, sont sur une seule et même voie. Comme vous avez dit. Et ils ont une seule divinité adorée. Et ils suivent un seul livre. Ils ont un seul prophète. Et ce sont tous les serviteurs d'un seul Seigneur. Donc leur religion, elle est une. Leur prophète est un. Leur livre est un. Leur divinité est une. C'est comme si ils étaient tous, autant qu'ils sont, un seul imam pour tous ceux qui viendront après eux. C'est comme s'ils étaient tous, autant qu'ils sont, un seul imam pour tous ceux qui viendront après eux. Contrairement aux guides du faux, qui, eux, sont divisés et dont les voies sont dérivées, multiples et séparées. Les méthodologies, les croyances, tout cela est séparé et divisé. En somme, le suivi n'est pas le suivi des gens, mais le suivi de ce sur quoi ils sont. Et vu que ce sur quoi ils sont, c'est une chose qui est une, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la voix du prophète alayhi salat wa salam, et ben en réalité, tous ces imams-là ne forment qu'un. Vous avez compris l'explication ? Celui qui est venu aujourd'hui, il a pris ça, il a gagné. Celui qui est venu, il a compris ça, il a gagné. Et de là, on vous appelle à l'union. Si ceux qui viennent après vous, et vous, vous avez étudié en telle année, et ils vous voient un groupe là-bas, un groupe là-bas, un groupe là-bas, ceux de tel quartier ne visitent pas ceux de tel quartier. Hein? Et ceux de tel quartier, ils n'invitent pas ceux de tel quartier. Et tel chir, il n'invite pas tel chir. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de ceux qui viendront après vous? Et pour eux, c'est ça l'islam. C'est que c'est des groupes, et eux, ils suivent un tel, et eux, ils suivent un tel, et eux, ils vont pas avec un tel, et les autres, ils vont pas avec eux. Est-ce que ça, là, c'est ça qu'on a appris dans le Coran? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans le Coran? Non. D'accord. Mais est-ce que dehors, on voit pas ça des fois? Dehors, on voit ça. D'accord, le problème vient du Coran ou il vient de nous? Le problème vient de nous, il faut nettoyer les cœurs. Nettoyer les cœurs. D'où l'importance de la visite fraternelle. Dans beaucoup de hadiths, tu vois la visite fraternelle. Hein? Tu vois la visite parce que c'est ça qui enlève le west-west. C'est ça qui enlève les portes du shaitan. C'est ça qui ferme les pas du diable. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Ou vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quand il n'y a pas la visite en Allah, on est loin. Comment on va s'aimer si on ne se voit pas, si on ne se connaît pas? Une fois, j'ai entendu une nasha de mon père, hafidahullah ta'ala. Il dit, mais si on ne se visite pas, comment on va se connaître? Si on ne se connaît pas, comment on va s'aimer? Ça, c'est les paroles des awam. Mais des anciens qui ont l'expérience. Mais des anciens qui ont l'expérience. Kalam haq. Kalam haq, on trouve ça dans le din. Si vous ne vous visitez pas entre vous, si vous ne prenez pas les nouvelles des uns des autres, comment vous allez vous aimer? Et ensuite, si vous, demain, vous devenez les prêcheurs, les enseignants, et que chacun est dans son coin, et que par la suite, vous allez avoir des élèves qui voient, que tu le veuilles ou non, cette division apparente. Peut-être que dans les cœurs, il y a un peu de rêve. Mais est-ce que toi, tu fais les éloges de l'autre? Est-ce que tu dis, mashallah, il y a un prof là-bas, il est bien? Est-ce que tu dis, lui, il fait une conférence à assister les frères? Il est mustafid. Il a étudié, mashallah, fi khair. Est-ce que vous faites ça? Hein? Si on fait pas ça, on va pas être dans ces versets-là. On va être la cause, nous, malheureusement, de la division des générations les plus jeunes. Et ils vont penser que c'est normal, ils vont penser que c'est ça le dîn. Alors que s'ils viennent, ils trouvent cette union que vous formez là actuellement. Quand un il va essayer de faire une division, tout le monde va l'attraper par l'oreille. Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on est unis. Nous, on s'aime. Nous, on est dans le réel. Toi, tu viens, tu veux diviser. Ça, c'est 10 ans de travail. Toi, tu vas diviser. Soit tu t'adab. Soit tu observes le comportement adéquat, tu restes dans l'assise. Soit va te diviser tout seul, va diviser ton corps ailleurs. Mais nous, là, tu ne divises pas. Parce que nous, on est serviteurs d'un Seigneur unique. Notre prophète, il est un. Notre Qibla, elle est une. Naam. Notre Coran, il est un. Notre voix, elle est une. C'est ça qu'il faut lui dire. Quand un, il vient, il veut déverser son venin dans tes oreilles sur ton frère, fille-là. Hein? Si tu l'écoutes, il va réussir à vous diviser. Mais si tu l'arrêtes, tu lui dis, Ari, nous, on est unis, on est dans le frère. Toi, par cette parole, tu cherches quoi? Non, Ari, moi, je t'aime bien, t'as vu? Moi, j'ai rien vu du tout. Mais je t'écoute, je t'écoute. Si c'est mon bien que tu veux, moi, j'ai rien fait. Mais c'est lui qui a parlé. Pourquoi tu viens me voir à moi? Si t'as un homme, va le voir lui, pollue pas mon oreille et va le corriger. Est-ce que moi, tu m'as vu faire une faute? C'est lui qui a parlé. Pourquoi tu viens me voir moi? C'est pas moi qu'il faut corriger. Va le voir lui, attrape-le, salue-le, et le comportement adéquat, assieds-toi avec lui et parle avec lui. Vous avez compris? Oui, mais il a dit, je veux pas le savoir. Ce que tu vas me dire là, ça me rapproche d'Allah? Non. Ça m'éloigne de l'enfer? Non. Pourquoi tu me prends mon temps? Pourquoi tu me prends mon temps? Moi, je suis assis avec mes frères. Je suis dans le réel. Pourquoi tu viens me prendre mon temps? Est-ce que ça, c'est plus important de ce dans quoi on est là présentement? Non. Alors, dispose. Naam. Et va parler à celui qui doit avoir un nasiha. Mais pour faire ça, les frères, il faut du courage. Et ça, ça manque à beaucoup de gens. Pour faire ça, il faut être un homme. Et ça, ça manque aussi à beaucoup de gens. Et je parle pas des femmes, je parle des gens de sexe masculin. Et pour faire ça, il faut du ilm. Et pour ça, il faut de la sagesse. Et pour ça, et pour ça, et pour ça. Mais en réalité, ça s'appelle être musulman. Ça s'appelle faire attention à la fraternité. Tout ce qui touche à la fraternité en islam, on l'a enlevé. Jusqu'à vendre une chose, jusqu'à surenchérir sur une chose pour augmenter le prix. Jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à aller demander une femme en mariage que ton frère l'a déjà demandé. Jusqu'à on est trois et moi je parle que avec mon frère Anis et lui il entend pas. Allahu Akbar. C'est quoi cet islam? Subhanallah. Rasulallah m'a dit si vous êtes trois, que deux ils ne parlent pas en privé parce que le troisième ça va l'attrister. Est-ce que tu imagines qu'on t'interdise jusqu'à là? Pourquoi? Juste pour pas attrister le cœur de ton frère. D'accord. C'est ça qui est pire ou c'est de parler? Manger sa chair. C'est quoi le pire? C'est manger sa chair. Hein? Manger sa chair. Et c'est pour ça que la bid'a c'est très grave. Parce que la bid'a, ça vient avec l'inimitié, ça vient avec la division. Barakallahu fikoum. Donc ces enseignements-là, ça doit pas être que agréable à l'oreille. Il faut l'amal. Il faut l'amal. Comment t'expliques que des gens adultes, normalement constitués, s'ils ont une divergence sur un chéri, ils sont d'accord sur tout le reste, ils deviennent des ennemis comme s'ils ne se sont jamais connus. Lui, il dit l'autre, c'est un moubtadir. Lui, il dit non, c'est l'autre, c'est un moubtadir. D'accord, mais moi, quand je vous ai connu, tu m'as dit, lui, c'est le meilleur de la terre. Et toi aussi, quand je t'ai connu, tu m'as dit, il n'y a pas mieux que lui. Et maintenant, lui, c'est carrément un moubtadir. Tu l'as même pas laissé dans la sphère de la sunna. Même pas tout en bas, de loin, on le voit. Non, tu l'as sorti. Après, il reste que le kufr. Hein? Et toi aussi, t'as fait ça avec ton, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais lui, il va au cours de un tel. Après, il cherche qu'est-ce qu'il va dire. D'accord. Et un tel, c'est un moubtadir. Non, j'ai pas dit que c'est un moubtadir. Alors, c'est la sunna. Il est où? Dans un chemin entre les deux, quand t'as un mu'tazila, là, t'es quoi? On connaît pas nous entre les deux. Soit il est à la sunna, soit il est à la bid'a. Taïb, il a étudié? Oui. Il a du ilm? Oui. Peut-être même c'est ton prof ou le prof de tes profs. Taïb, il a des fautes? Tamam, comme tout le monde. Mais est-ce que ces fautes qu'il a font sortir de la sunna ou pas? Si oui, pourquoi tu gardes ça pour toi? Il faut s'asseoir avec les chouyours. Parce qu'il y a 10 personnes qui vont encore. Tu vas laisser les 10 aller chez la bid'a? Non, tu dois t'asseoir avec les chouyours exposés. Lui, il a ça, il a ça, il a ça, et les gens, ils vont chez lui. Est-ce que ces fautes-là, elles méritent de s'éloigner ou de pas s'éloigner? Et c'est les chouyours qui vont trancher. Ils vont te dire, cette faute-là, c'est pas une faute, il y a une divergence dedans. Cette faute-là, oui. Allez le voir, conseillez-le. Chir, nous, on n'a pas le niveau. Alors, orientez-le vers les gens de science. Ils vont le conseiller. Et peut-être que toi, d'une grosse histoire que tu voulais faire, la science lui parvient, le conseil, il te dit merci, jazakallah khairan, et ensuite il revient dans le cours et se corrige. Et les frères, ils restent unis. Mais c'est pas ça qu'il faut. Parce que les cœurs, ils sont pas propres. Parce que les cœurs sont pas propres. Parce qu'il y a du hasad. Parce qu'il y a de la jalousie des fois. Parce qu'il y a un manque d'éducation des fois. Parce qu'il y a un manque de science des fois. Ou parce qu'on veut faire appartenir à un groupe. Nous, on connaît pas de groupe si c'est la sunna. Il y a personne qui nous élève ou nous rabaisse en dehors d'Allah. Personne ne donne mon risque, qui m'enlève mon risque si ce n'est Allah. Personne ne peut faire traverser Sirat, rentrer au paradis si ce n'est Allah. On cherche l'agrément de personne. Haq, haq, il faut dire. Batil, c'est batil, il faut dire aussi. Wadah al-kalam. Il faut pas qu'une divergence, elle ramène des catastrophes. Il faut savoir se comporter dans la divergence. Maintenant, si lui penche vers la bid'a, il va s'asseoir, c'est les gens de la bid'a. Il fréquente les gens de la bid'a. Et quand on met en garde contre les gens de la bid'a, il aime pas. Il est malade. Soit il est ignorant, on va lui enseigner, hein. Soit il a flanché. On essaye de patienter, on essaye de le tirer. Mais si lui, il veut pas être sauvé, à ce moment-là, c'est lui qui s'est éloigné. C'est pas nous, on l'a éloigné. Donc, on fait la différence entre la faute qui fait sortir de la sunna, la faute qui fait pas sortir de la sunna. On fait la faute. On fait la différence entre celui qui s'est trompé et celui qui s'est égaré, qui vise le mal. Et dans chaque situation, il y a un comportement à voir. Et ça, c'est pas laissé au bon vouloir des petits comme nous. C'est les ulama qui nous ont éduqués parce qu'ils ont pris de leurs savants, qui ont pris de leurs savants, qui ont pris des compagnons, qui ont pris du prophète, alayhi salatu wa salam. Comment ils se comportaient avec eux? Comment ils se comportaient avec les autres? Ça, il y a besoin d'ilm, il y a besoin de sagesse. C'est pas toute divergence qui est légitime. C'est pas toute divergence qui est légitime. Parce que sinon, tu vas tomber dans le sectarisme en pensant que tu es dans la sunna. Sinon, tu vas tomber dans le sectarisme en pensant que tu es dans la sunna. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on aille que chez son shir. Parce qu'il est fanatisé à son shir. D'accord. Mais si moi, je vais chez un autre shir, il est à la sunna. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Maintenant, s'il y a des fautes que nous, on ignore, apporte-nous ces fautes-là pour qu'on les expose au shir. Et le shir, ils vont trancher. C'est aussi simple que ça, les frères. Mais pourquoi entre vous, vous allez vous disputer? Ouais, kada, 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 non. Parce qu'il n'y a pas le niveau déjà de juger la chose. Toi, au maximum, tu peux amener les faits. J'ai entendu ça, ça me paraît bizarre. C'est quoi le jugement? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais toi, concrètement, t'as pas le niveau de porter un diagnostic. Non. T'es pas médecin, même pas infirmier. Comment tu vas faire un diagnostic? Wadah? T'es pas celui qu'on appelle pour prendre la tension et la température avant la venue du médecin. Même ça, t'es pas. T'es en dehors du bloc. Mais tu veux venir faire l'opération cœur ouvert. Allahu Akbar. Hein? Laisse ça au chirurgien. Même certains médecins disent, non, moi je touche pas, c'est dangereux. Toi, t'es pas infirmier, tu dis, moi, c'est moi, laissez-moi faire. Yahri, tu vas détruire tout le bâtiment. Tu vas détruire tout le bâtiment, t'es une maladie. T'es pas un remède. Mais le problème, c'est que la maladie, elle peut être contagieuse. Elle peut être contagieuse, ça touche lui, ça touche lui, ça touche lui, ça touche lui. À la fin des choses aberrantes, elles deviennent une base chez certains. Toute personne qui est pas d'accord avec moi sur une chose, je lui fais le hajj. Je lui passe pas le salam. Je. Ça, c'est un groupe de personnes. Un autre groupe de personnes, oui, mais la divergence, c'est une rahma. Il s'assoit même avec les shi'a rafida, pas de problème. Comment ça, y a pas de problème? Oui, je fais ce que je veux, la liberté. La liberté, akhi, c'est au paradis quand tu auras réussi ton épreuve. C'est pas ici la liberté. Ici, t'es un abdoun lillah, t'es soumis à Allah Azza wa Jalla, des règles. Wadah. Donc, il faut être dans le juste milieu. Ni dans ça. Hein? Justifier la divergence là, pour tout et n'importe quoi. Et ni ouvrir les portes comme ça et faire entrer dans Ahlus Sunnah tout le monde. Même ceux qui contredisent les bases de Ahlus Sunnah ou tombent en concordance dans les bases de Ahlul Bid'ah. C'est celui qui est dans ça, là. C'est celui qui est dans ça qui va tomber dans la bid'a, qui va devenir un mubtadi' s'il revient par Allah Azza wa Jal. Wadah? Barakallahu fikum. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il y a quatre conditions pour devenir un imam dans la piété. Il nous dit en commençant qu'Allah nous informe qu'il faut as-sabr wal-yaqin, l'endurance et la certitude. Dans sourate As-Sajda, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. On a fait d'eux des imams qui guident selon notre ordre lorsqu'ils sont montrés endurants et avaient la certitude dans nos signes. Naam. Dans ce simple verset, il y a les quatre conditions pour devenir un imam. Où ça? Yahdun ad-da'watu ila Allah. Premièrement, ils invitent les gens à Allah. ils invitent les gens à Allah. Deuxièmement, bi amrina, selon notre ordre. C'est quoi ça? C'est le suivi du prophète alayhi salat wa sallam. Pas selon les passions, selon son avis, selon le suivi aveugle, non. Bi amrina, en conformité avec la voix du prophète alayhi salat wa sallam. Sa da'wa, elle est à la sunna. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, lamma sabaru, lorsqu'ils sont montrés endurants. Endurants dans quoi? Endurants dans l'obéissance d'Allah. Endurants face à la désobéissance d'Allah. Endurants lors du décret d'Allah douloureux. Dans les trois domaines de l'endurance. Il manque quelque chose? Le quatrième. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Et ils avaient la certitude dans nos signes. Ça fait combien? Ça fait quatre. Le premier, c'était quoi? Inviter les gens à Allah. Le deuxième? En conformité avec la sunna. Le troisième? L'endurance. Et le quatrième? La certitude. Barakallahu fikum. Avec l'endurance et la certitude, tu vas atteindre le bonheur, te dit Ibn al-Qayyim. Et s'il te manque quelque chose, tu ne l'atteindras pas. Et le bonheur, en réalité, c'est quoi? C'est rahatul qalb. C'est la tranquillité du cœur. Le cœur passe par des étapes, il est agressé. Il est scruté constamment par deux maladies. Par deux maladies. La première maladie du cœur s'appelle comment? Maradou shubuhat. La maladie des ambiguïtés. Et ça, c'est une perversion de quoi? De la science. La deuxième maladie s'appelle maradou shahawat. La maladie des passions. Et ça, c'est une perversion dans quoi? Al-amal. Il y a la science. Quand elle est dénaturée, ça fait tomber dans quoi? Les ambiguïtés, shubuhat. Il y a la madha, la mise en pratique, les œuvres. Quand c'est dénaturé, ça fait tomber dans quoi? Dans les shahawat. Ce sont les deux maladies du cœur. Maradou shubuhat, maradou shahawat. Le premier atteinte à quoi? Porte atteinte à la connaissance, à la perception des choses. Ça devient dénaturé. Le deuxième, il porte atteinte dans la mise en pratique. Il n'arrive plus à œuvrer dans le bien. Il tombe dans le haram. C'est plus fort. C'est trop fort pour lui. Pas plus fort que lui. C'est trop fort pour lui. D'accord? Pourquoi el-sabr et el-yaqin, c'est ça le bonheur? Parce que el-sabr, c'est le remède et le bouclier contre el-shahawat. El-yaqin, c'est le remède et le bouclier contre el-shubuhat. L'endurance, il est constant, il est fort devant les passions, devant le haram. Aussi, il est constant dans les obligations d'Allah. Et il est constant, il est fort lors du décret d'Allah. Donc, les passions, elles n'arrivent pas à le battre. Elles n'arrivent pas à le battre. Aussi, il a une certitude dans la promesse d'Allah, dans le paradis, dans l'enfer, dans le fait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, qui sarrahman rahimin. Alors, il a un bouclier contre eux, les ambiguïtés. Allah Azza wa Jal a mentionné ces deux maladies. Vous pouvez prendre le verset de Surah At-Tawbah, le verset 69. Kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. C'est-à-dire que vous êtes entrés dans votre part de shahawat, tout comme eux avaient une part de shahawat. Ensuite, وخضتم كالذي خاضوا. Et vous êtes rentré dans le sujet comme ceux qui l'avaient fait auparavant. Ça, c'est Ash-Shubuhat. Je vous ai cité le verset pour que vous reveniez à la traduction. Ça, c'est un des versets où on a réuni les deux maladies. Sinon, de manière séparée, vous trouvez aussi. Par exemple, Allah Azza wa Jal a dit aux femmes du Rasul, aux femmes de la communauté, de mettre le hijab et de parler aux étrangers que derrière un hijab. Tayyib. Et de ne pas être complaisante dans le discours. Puis Allah Azza wa Jal nous dit فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Afin que celui qui a une maladie au cœur ne vous convoite pas. Il s'agit de quelle maladie ici? Shahawat. La maladie de la passion. D'accord? Et quand les gens de l'innovation, t'entends? Il a des shubuhat. On parle de quelle shubuhat? On parle de quelle maladie? La maladie des shubuhat. Des ambiguïtés. Fayyib. La fin du verset. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Voici ceux dont les œuvres sont vains. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc on voit la dangerosité des maladies du cœur. Taïb. Yahdou Nabi Amrina, on a expliqué. Lamma sabaru, on a expliqué. Taïm. Al-yaqin, c'est quoi? Al-yaqin, c'est l'iman ou tam al-mujibu lil-amal. Ibn Khayyim, rahimahullah ta'ala, Ibn Sa'adi le cite souvent. Al-yaqin, c'est quoi sa définition? Al-iman ou tam al-mujibu lil-amal. C'est la foi quand elle est parfaite, c'est-à-dire elle a été parfaite, et de laquelle découlent forcément des œuvres. C'est pour cela que certains, des fois, te disent, par exemple, musulmans non pratiquants, croyants non pratiquants. Est-ce que cette phrase, elle existe? En islam, il n'y a pas les hommes de religion, les hommes pas de religion. Il n'y a pas ça en islam. Un musulman, il a forcément de la religion, mais ça peut être peu, ça peut être beaucoup, ça peut être énormément. Mais est-ce qu'on peut imaginer un musulman, il n'a pas d'amal? Ça, c'est la croyance de qui, ça? Quelle secte dit ça? Al-Murji'a. Al-Murji'a te disent la foi, c'est la croyance ou la parole, mais que les œuvres, c'est partie non composante de la foi. C'est en dehors de l'appellation de la foi. Ça, c'est une bid'a, c'est haram, c'est grave de dire ça. Non. Le amal, il fait partie de la foi. Le amal, il fait partie de la foi. Et quand Allah Azza wa Jalla dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, c'est pas pour dire que les bonnes œuvres ne font pas partie de la foi. Hein? C'est pour répéter la spécificité après la mention de la généralité pour montrer son importance. Tous les étudiants sont venus. Et en plus, Abdullah est venu. Est-ce que ça veut dire Abdullah n'est pas un étudiant? Non. Si je veux montrer l'importance de Abdullah dans l'ensemble, vous avez compris? Je suis venu avec tous mes enfants. Et en plus, je suis venu avec Ismaïl. Ça veut dire quoi? Ismaïl, c'est pas mon nom? Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tout ça, ce sont ses enfants, mais que lui, il le spécifie. Vous avez compris? Taïeb. On a plein d'exemples dans le Coran. Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa jibril wa mikal. Quiconque se fait l'ennemi d'Allah, se fait l'ennemi des anges, et se fait l'ennemi de Jibril et de Mikal. D'accord? Jibril et Mikal, ce sont pas des anges? Ou non? Ce sont des anges. Pourtant, Allah Azza wa Jalla a déjà cité les anges et il a cité Jibril et Mikaël. Pourquoi? Pour montrer leur valeur d'entre l'ensemble des anges, ce sont les meilleurs. Et deuxièmement, pour les défendre parce que des gens du livre avaient parlé sur eux. Wadih al-kalam? Tayyib. Une autre faïda d'Ibn Sa'di, c'est pour que les gens ne pensent pas que dans la foi, on peut se suffire de ce qu'il y a dans le cœur. On mentionne beaucoup les bonnes œuvres pour que les gens ne pensent pas que dans la foi, on peut se suffire de ce qu'il y a dans le cœur. Et vous dites la même chose quand il y a Al-Taqwa, par exemple. Des fois, ça veut dire les bonnes œuvres, ça veut dire délaisser les péchés. Mais quand un seul est cité, ça englobe le tout. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est Al-Yaqin. Al-Yaqin, ça enlève quoi? Tout doute. Ça enlève le doute. Allah Azza wa Jalla a mentionné les piliers de la foi qui amènent la stabilité du cœur. Quels sont les piliers de la foi que vous connaissez tous? Premièrement, l'iman, billah, la foi en Allah. Ensuite, aux anges. Ensuite, au livre, ensuite au messager, ensuite au jour dernier. Et la foi en la prédestination ou bien le destin, favorable ou bien défavorable. D'accord? Pourquoi on a commencé par la foi en Allah? Pourquoi on a cité en deuxième les anges? Pourquoi en troisième les livres? Pourquoi en quatrième les prophètes? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est visé. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse l'attendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de par le Coran. Il l'a fait entendre à qui? À l'ange. Il lui a fait entendre quoi? Le livre. Qu'il a transmis à qui? Au messager. Si t'appliques ou t'appliques pas, de toute façon tu seras ressuscité. C'est le jour dernier. Pour être jugé. Et tout cela a lieu dans quoi? Dans le qadar d'Allah Azza wa Jalla. Tout cela a lieu dans quoi? Dans le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ici, on a mentionné cinq piliers de la foi. À la fin de l'Baqara, cinq piliers de la foi. D'accord. Il est où l'iman bil qadar? Pourquoi on n'a pas mentionné l'iman bil qadar? On a mentionné quoi ici? Vous voulez que je traduise? Celui qui croit en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça fait combien? Ça fait cinq. Il est où l'iman bil qadar? Hein, on l'a cité ou on l'a pas cité? Il est où? Donc, yadkhul fil iman billah. Iman bil qadar, yadkhul fil iman billah. Parce que le qadar, c'est qudratullah, comme a dit Abdullah ibn Abbas, ou l'imam Ahmed, j'ai oublié, Al-Qadar, c'est ilmullah aussi. Ça rentre dans l'iman billah. Mais sinon, elle a été citée dans le Coran, « Na kulla shayn khalaqunahu biqadar. » آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله pareil 5 avec la même explication. Et vous connaissez tous le célèbre hadith Jibril alayhi salam. Inch'Allah, en dehors du cours, on lira le début du hadith dans Sahih Muslim. L'histoire, tout le monde connaît le hadith Jibril, n'est-ce pas? Vous avez tous mémorisé l'Arba'in Nawiyah. Sinon, il faut commencer tout à l'heure. Il faut commencer hier. Si vous n'avez pas tous mémorisé Arba'in Nawiyah, vous commencez hier. Vous avez compris? C'est possible, Mohamed, de commencer hier? Masha'Allah. Tamam. Vous commencez ce soir. D'accord? Arba'in Nawiyah, talbi'il. Talbi'il, il a appris Arba'in Nawiyah, il cherche quelqu'un pour lui enseigner Arba'in Nawiyah. D'accord? Celui qui n'a pas fait Arba'in Nawiyah, il retourne à quel niveau? Muqaddima. Muqaddima. Il y a quelque chose avant Muqaddima? Assassi. Tu l'as caché celui-là. Assassi. Hein? Assassi. Assassi, il y a la notion d'assassinat. Hein? D'assassinat, c'est un crime contre la science. Arba'in al-Nawawiyya, indispensable, les frères, dans le hadith. Hein? Lui, il est en train de parler, les chouris, yassa. Yachi, va t'asseoir, prends Arba'in al-Nawawiyya. Prends Arba'in al-Nawawiyya. Apprends Arba'in al-Nawawiyya, tu auras du ilm. Tu auras de la science, c'est pas ironique. C'est véridique. Arba'in al-Nawawiyya, c'est du ilm, les frères. Wallah. Parmi les meilleurs cours Arba'in al-Nawawiyya, il y a beaucoup de science dedans, il y a de l'éducation. Et il y a les bases de la religion. 42 hadiths, 43 si on veut être méticuleux, il y a les bases du din dedans. Comment nous, on va s'interdire ça à nous-mêmes? Hein? Alors que même quand on a plus faim, on rajoute. Ça, c'est de la dépendance. On a besoin de ça. Hein? Pourquoi dans l'ilm, on fait le régime et dans la dunya, on mange même pas correctement? Je suis pas nutritionniste, mais je vous alerte sur cela. Il reste quoi? Al-yaqin. Ensuite, le shirk part sur al-da'wa. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الدَّعْيَ إِلَى اللَّهِ. Son niveau, s'il est véridique, il est juste en dessous des prophètes. Celui qui invite les gens à Allah, il n'y a personne qu'au-dessus de lui, si ce n'est les prophètes. Il fait partie des très véridiques. Ça, ça doit nous encourager à prendre la science, à appliquer, et ensuite à prêcher. Et qui est meilleur que celui, qui est meilleur en matière de parole que celui qui invite à Allah et fait de bonnes œuvres et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Al-Hassan Basri disait « Hada Habibullah ». Hada waliullah. Voici le bien-aimé d'Allah. Voici celui qu'il a rapproché et aimé. Jusqu'à la fin de sa parole, il s'est soumis à Allah, il lui a obéi, puis il a invité les serviteurs à en faire de même. Ibn Qayyim dit, Afdalu anwa' al-insan wa a'lahum darajatan 'inda Allah yawm al-qiyamah. Allahu akbar. La meilleure des catégories parmi les gens est celui qui aura le niveau le plus haut chez Allah le jour de la résurrection. Et vous connaissez tous Surat al-Asr, on a cité ces caractéristiques-là. Dans Suratu Al-Asr. Inna l'insana la fi maza illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ça, c'est pour toi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ça, c'est pour les autres. Écoutez bien. Avec la science et la mise en pratique, tukmil nafsak. Tu complètes ta propre personne. Hein? Là, c'est l'air de quoi, là, sur les réseaux, c'est l'air de quoi? Ils prennent tous des formations de quoi? Développement personnel. Hein? Ils sont même pas développés, ils veulent développer les autres. Hein? L'homme, il avait une moitié de cerveau. Il rentre dans leur programme, il ressort, il a plus de cerveau. Il rentre chez lui, il dit, je vais en Australie. Pourquoi tu vas en Australie? Mon coach, il m'a dit, je dois vivre mes rêves, je dois faire mes, assis-toi, arrête de parler, assis-toi. Hein? Assis-toi, va manger ton riz. Qu'est-ce que tu racontes? Quel parent chez nous, il est venu, il est rentré un jour, il a dit, je vais là-bas. Hein? On est déjà parti en vacances, nous? Assieds-toi, Harry. Qu'est-ce que tu racontes? Et elle est chez elle, les pieds sous la table. Son mari travaille pour elle. Elle s'occupe du foyer des enfants. Un jour, elle se réveille, elle dit, je fais plus rien. Comment ça, tu fais plus rien? Ma coach, elle a dit, que ceci, que cela, que, va vivre chez ta coach. Va voir si c'est ta coach qui paye le loyer. Va chez ta coach. Et ton risque, il va venir. Subhanallah l'azim. 10 ans d'éducation, une parole d'une coach et tu changes ta vie? Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Développement personnel, ikhwat al-iman, il est là. On va faire un cours de développement personnel tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wal asr inna al-insana fi khus. Allah, il a juré par le temps. Al-asr, al-zaman, wa mahalul hawadith. C'est ce dans quoi les œuvres ont lieu, les hasanat et les sayyiat. Le temps, c'est une chose des plus importantes. Il madha inna al-insana la fi khusr. Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Mais nous, on jure que par Allah Azza wa Jal, sinon c'est du shirk. Il jure pour dire quoi? Que l'homme est en perdition. Parmi les ins, parmi les djinns, ils sont en perdition. Ils courent à leur perte. Puis, il nous cite une exception des gens qui ont réuni 4 caractéristiques. La première, illa ladina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi. Donc, ce sont des gens de science. Deuxième caractéristique, wa amilu salihat. Ils ont fait des œuvres pieuses. Ils ont fait des œuvres pieuses. Donc, ils ont concrétisé quoi? Al-Iman. Al-Iman. Ibn Qayyim te dit, avec ces deux choses-là, tu viens parfaire ta personne. C'est ça le développement personnel. C'est ça le développement personnel. Étudie, applique. Puis, étudie, applique. Tu vas devenir quelqu'un. Que les gens le sachent ou pas, qu'ils connaissent ta valeur ou pas, tu vas devenir quelqu'un chez Allah Azza wa Jal. Et en général, Allah Azza wa Jal le fait savoir. Et même Shafi'i disait, j'aurais tant aimé qu'on prenne ma science sans me connaître. Mais Allah Azza wa Jal il fait connaître. Mais c'est pas parce que la personne est connue qu'elle est de bien. Ça, c'est le développement personnel. La science, la science, la science. Ensuite, la mise en pratique. Avec la science, la mise en pratique. Écoutez bien. Avec ça, tu te complètes toi-même. Est-ce que maintenant que t'as le khair, tu vas t'arrêter là? Non. Le muslim, il veut le bien pour tout le monde. Même pour ses ennemis, il veut le bien. Alors, tu vas réformer les autres avec deux autres caractéristiques. C'est quoi? Watawasaw bil haqq. On s'enjoint mutuellement la vérité. Watawasaw bil sabr. On s'enjoint mutuellement l'endurance. Avec ça, tu vas parfaire les autres. Hein? Vous pouvez virer tous les coachs. C'est ça la vérité. Barakallahu fikum. Qu'a dit l'imam al-Shafi'i à propos de cette sourate? Law tafakkara an-nas fi hadhihi sourati lakafatuhum. Si les gens avaient médité sur cette sourate, celle-ci aurait été suffisante. Cette da'wah-là, tu la fais pas comme tu veux. Ça, c'est la da'wah d'Allah. Il y a des règles. Tu dois respecter des règles. Tu dois commencer par être tawhid. Je dois appeler au tawhid de manière détaillée, pas de manière générale. Et je dois avertir contre le shirk de manière détaillée, pas de manière générale. Et tu dois commencer du plus important à l'important. Tu dois parler avec science, tu dois parler avec sagesse. Il y a des règles. Tu dois adapter ton discours selon la personne qui est devant toi. Tu dois connaître son état, sa situation, pour être sage. Tout cela, tu l'apprends en t'asseyant chez les gens de science. Et surtout, t'appelles à Allah, t'appelles pas à toi. Parce qu'il y a des gens, ils disent le nom d'Allah, mais en vérité, ils appellent à eux-mêmes, ou ils appellent à leur groupe, ou ils appellent à leur shir. C'est pour ça qu'Allah nous dit quoi dans le Coran? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. Si vous prenez Kitab al-Tawhid, dans les Masa'il, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur ça. J'appelle à Allah ici, on attire notre attention sur quoi? La sincérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui appellent à Allah, mais en réalité, ils appellent à eux-mêmes. C'est très dangereux. Qu'Allah nous soigne et nous préserve de cela. Celui qui n'appelle pas Allah n'est pas sur le chemin. Aussi, il doit appeler avec science. Celui qui appelle Allah avec ignorance, il n'est pas sur le chemin. Donc, celui qui appelle sans science, il fait pas partie des suiveurs du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanallahi ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa mana min al-mushrikin. Donc tu dois yani yahduna bi amrina, cette da'wa en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wasallam. Tu fais attention à ne pas apporter de nouveautés, à ne pas apporter de choses dans lesquelles les savants ne t'ont pas précédé. Tu fais attention à rester derrière les ulama, derrière tes enseignants, derrière ceux qui t'ont précédé. Naam, tu dois pas parler en conformité avec l'avis des gens, avec le goût des gens, avec le madhab de quelqu'un ou autre. Non. Barakallahu fikum. Donc voici les caractéristiques pour devenir un imam. Ainsi s'achève ce chapitre-là. Puis l'auteur a mentionné la célèbre khutbah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala quand elle a réfuté Al-Jahmiyyah. Car en effet, les roudoud, les réfutations, minad-din, fait partie de la religion. Mais celui qui n'a pas été éduqué chez les gens de science, il pense que toute parole sur autrui, c'est de la médisance. Non. Ou qu'il n'y a que toutes les paroles sur les gens, ça fait partie du dîn. Non. La base, c'est que l'honneur du muslim, il est haram. Ça, c'est la base, faut le savoir. C'est pas la base que tu peux parler. Non. La base, c'est haram. Puis, il y a des exceptions. Et maintenant, oui, par exemple, on a cité 6. Dans son livre, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre. Al-Farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir. La différence entre le conseil et le fait de critiquer les gens pour exposer leurs défauts. Il y a une différence. Quand tu critiques, il y a une différence quand tu conseilles. On s'arrête sur cela. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter d'autres assises pour pouvoir mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a mentionné en Sourate Al-Asr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.